EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour à tous. Alors, on est heureux de pouvoir passer ce moment encore avec vous, cette émission Parole de femmes. Je suis avec Aurélie et le pasteur Sosthène Makita et nous parlons de cette invitation que nous avons à demeurer en Jésus et les bienfaits qu'il y a dans le fait de demeurer dans sa présence. Alors, hier, on a pu voir demeurer que c'était pas juste enfermé dans sa chambre ou dans une grotte ou sur un arbre. Vous pouvez aller voir l'émission, vous comprendrez mieux de quoi nous parlons. Et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant des bienfaits avec toi, pasteur Sosthène, qui est avec nous pour toute cette semaine. C'est ta première fois, aujourd'hui c'est ta deuxième fois du coup, mais c'est ta première fois dans Parole de femme. Alors on est content de pouvoir t'accueillir.
Merci de l'accueil. Oui, là, on avait parlé du thème de demeurer, et c'est ce qu'on va un peu plus approfondir, en tout cas. Je pense qu'on me connaît maintenant, je dois me présenter un petit peu.
Non, c'est bon.
Non, c'est
on
bon.
Fera ça demain ou après-demain.
On fera ça demain, voilà. Oui, donc on a parlé de demeurer. Et aujourd'hui, j'aimerais surtout parler des bienfaits. Mm-hmm. Des bienfaits qu'il y a à demeurer. On a vu, selon l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4, il était question de Jésus qui disait « demeurez en moi ». Et il dit « et moi je demeurerai en vous ». Ça, c'est le premier des bienfaits. Tout le long de la semaine, on verra vraiment les différents bienfaits. Mais le premier des bienfaits, c'est que lorsque nous demeurons en Jésus, lorsque nous demeurons en lui, lui, il garantit qu'il demeurera en nous. Et ça, c'est très important parce que nous tous, à un moment donné dans notre vie chrétienne, on peut avoir ce sentiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne du moment, de sentir presque comme une absence, comme un vide de la présence de Dieu. Mm-hmm. D'autant plus que dans les premières années, dans les premiers mois, on a vécu des moments forts, on a ressenti la présence de Dieu. Et voici qu'au fur et à mesure, on passe par ce moment où on se dit, mais Seigneur, on dirait que tu es loin. Et là, le Seigneur nous dit, non, en fait, moi, je ne suis pas loin. La question, ce n'est pas de savoir où est-ce que je suis, parce que c'est ça qui va souvent venir à notre esprit. Seigneur, où est-ce que tu es, etc. Dieu dit non. La Bible nous dit que si toi, tu demeures en Dieu, mm-hmm. Dieu demeure en toi. Et en fait, le plus important, ce n'est pas de dire « Seigneur, où es-tu ?» C'est plutôt de dire « Est-ce que toi, tu demeures ?» Parce que si toi, tu es en Jésus, eh ben, par la foi, conformément à la parole de Dieu, tu peux être assuré que le Seigneur, lui, il est là. Et ça, c'est le premier bienfait que le Seigneur nous accorde, lui, de demeurer en nous. Et comment il demeure en nous ? Et quand on pense à comment Dieu demeure en nous, alors automatiquement, on est obligé de parler du Saint-Esprit. Parce que Dieu demeure en nous, non pas physiquement, Jésus l'avait dit à ses disciples, il est avantageux que je monte vers le Père, car si je ne pars pas, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il appelle le consolateur, l'avocat. Mmh. L'avocat, c'est d'abord celui qui vient à côté d'eux, qui vient à côté de nous, qui veut être avec nous, qui nous défend, qui nous donne ce que nous avons besoin. Et ici, il y a un écho, il y a un rappel de l'œuvre de l'Esprit. Nous savons très bien quelle est l'œuvre du Père. Le Père, c'est Dieu pour nous, hein, qui nous a tellement aimés. Le Fils, c'est Dieu parmi nous, qui vient mourir à la croix. Et souvent, l'Esprit, on ne sait pas toujours comment vraiment le situer. On sait que le Saint-Esprit nous transforme, on sait que le Saint-Esprit baptise. Mais par rapport au plan global du salut, à quoi il sert l'Esprit ? Et en fait, l'Esprit incarne la puissance de Dieu. Mmh. Celui par qui le Père va faire ce qu'il veut nous accorder dans le Fils. On peut le dire autrement, le Saint-Esprit est celui qui rend concret le plan de Dieu. Mmh. Le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, on l'a vu, c'est connaître Dieu. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui vient nous apporter cette connaissance de Dieu. C'est lui qui rend concret. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien de concret de Dieu en nous. Mmh. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et il vient comment ? Il vient habiter en nous. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on se dit, mais comment un Dieu si grand, comment il peut habiter en nous ? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu à discuter avec certaines personnes qui pensaient différemment. Ils pensent même certains que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est une partie, une dose de l'Esprit. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Dieu ne vient pas, il n'y a pas que le bras de Dieu qui vient, il n'y a pas que le pied de Dieu qui vient. La Bible dit que Dieu vient faire de nous, nous avons été en Jésus, nous sommes devenus en Jésus, une habitation de Dieu en esprit. Ici, il y a la notion de la tente de la rencontre. Mm. Dieu vient, il descend dans cette tente que nous sommes. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il vient habiter en nous, pas partiellement, mais totalement en nous, de telle sorte que nous pouvons rentrer en dialogue avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut rentrer en dialogue avec Dieu. Comment ? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est là que ça soulève aussi toute l'idée de comment est-ce qu'on peut parler au Saint-Esprit ? Vous savez, il y a souvent eu toute une échange de est-ce qu'on peut prier l'Esprit ? Mais en fait, je dirais oui, on peut prier. Mais si on comprend le rôle de l'Esprit, le rôle de l'Esprit, c'est de nous amener, c'est de tourner nos regards vers le Christ. Donc, dès qu'on réalise que le Saint-Esprit est là pour tourner nos regards vers le Christ, alors on peut lui dire, ô Saint-Esprit, aide-moi à être un peu plus proche de Jésus. Montre-moi la parole de Jésus. Conduis-moi dans les plans que Dieu a pour moi. Donc, Dieu vient habiter en nous. Et ça, waouh.
Mais moi, j'aime trop le ministère du Saint-Esprit. Ouais. Ça, c'est l'une des choses que... Si vous m'écoutez souvent, mais je dis, il faut lire Jean 14, Jean 15, Jean 16, parce que c'est là où Jésus, en fait, il dit ce que le Saint-Esprit va faire. Et le Saint-Esprit, sincèrement, quand tu comprends, comme on a dit, ben, pourquoi il est là et tout, mais c'est tellement... Pour moi, le Saint-Esprit change la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne, en fait, est changée par l'Esprit de Dieu. Et c'est important de le réaliser, de se dire, mais il est là, il vit, il habite en moi. Je me rappelle, j'avais eu une vision, je pense que je peux appeler ça comme ça. On était à une retraite des jeunes, ça fait peut-être 4 ou 5 ans. On était à une retraite et j'ai vu, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis j'avais vu comme si c'était mon cœur. Mais c'était grand, c'était comme un grand palais qui était immense. Et l'intérieur était tout beau, c'était comme si c'était de l'or qui était au mur, avec des matériaux extraordinaires. Et il y avait quelqu'un qui marchait. J'avais l'impression que c'est Jésus qui était en train de marcher. Et il était à l'aise. Il marchait, il marchait. Et là, ce jour-là, j'ai eu une compréhension de qu'on est l'habitation de Dieu. Ce que ça voulait dire, c'est que tu es conscient que Dieu est à l'intérieur de toi et qu'il marche. Il doit être à l'aise, en fait, à l'intérieur de toi, pour pouvoir se déployer, pouvoir faire tout ce qu'il avait à faire. Parce que la personne que je voyais marcher, mais tu sentais que c'était comme il était l'occupant des lieux. Tu vois, il était vraiment à l'aise. Et quelquefois, on ne réalise pas que le Saint-Esprit est vraiment là. Et parce qu'on n'imagine pas ces choses-là. Je ne pouvais pas imaginer ça. Je vois un grand palais, mais j'ai l'impression que c'est mon cœur. Je vois de l'or partout. C'est super beau. C'est des choses que je n'ai jamais vues dans ma vraie vie. Et je vois ça. Et sincèrement, le ministère du Saint-Esprit est extraordinaire. Le tout, c'est de se dire, tu es là, et de dire, Saint-Esprit, je veux que tu sois à l'aise à l'intérieur de moi pour pouvoir faire ce que tu as à faire, pour pouvoir me montrer Jésus, pour pouvoir m'aider à demeurer avec le Père, pour pouvoir suivre, marcher en fait dans la direction que tu veux. Et pour moi, ça change toute la vie. Ça change ta vie de prière. Ça change ta façon de faire dans ta maison. Ça change toutes les dimensions de la vie lorsqu'on prend conscience que le Saint-Esprit est là et que si on lui laisse la place pour vivre, j'ai envie de dire ça comme ça, ben, on s'est ouvert à des choses extraordinaires.
En tout cas, ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, le pasteur Yang Yisho, je crois qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « Saint-Esprit, mon associé ». Il raconte souvent dans son parcours, dans sa vie, dans son ministère, qui a été vraiment un ministère extraordinaire, il dit que la chose qui a été vraiment déterminante, c'est quand il a compris cette place de l'Esprit. Et il a compris à travers sa relation avec son épouse. Dans la culture coréenne dans laquelle il était, c'était une culture un peu... pour lui, voilà, la femme, elle est là à la maison et elle fait à manger. Et en gros, bon, dans son esprit, on s'arrêtait là, quoi. Et il a commencé à voir sa femme déprimée. Sa femme déprimée. Et lui, il ne comprenait pas, il a cru que c'était même le diable, hein, que c'est l'ennemi qui attaquait. Il a pris sa femme, il a commencé à intercéder pour elle, allez, au nom de Jésus. Bon, ça allait un peu mieux, mais après, ça retombait. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et en plus de ça, il va rencontrer la personne qu'il craignait le plus, c'est sa belle-mère. Parce qu'il faut savoir que la Yodo Full Gospel Church a été créée par Yang Yisho et en fait sa belle-mère. Et donc, il disait, mais il y a plein de personnes que je pouvais craindre, mais la personne que je craignais le plus sur la terre à ce moment-là, c'était sa belle-mère, et sa belle-mère l'appelle. Et le remonte un peu les bretelles en disant « Mais tu as épousé ma fille elle déprime, qu'est-ce qui se passe ?» Mm-hmm. Alors lui, il rentre à la maison, il croit encore que c'est vraiment le diable, il prie, et il n'y a pas. Et dans la prière, le Seigneur lui explique, il dit « Non, la femme que tu as épousée, que tu as mise dans la maison, elle n'est pas là juste comme un peu la femme, elle te sert à faire le manger, etc. Après, tu la ranges le soir et non, c'est une personne qui est chez toi avec laquelle tu dois rentrer en communion. » Et cet homme qui n'était pas très à faire les courses, faire les magasins, et vous savez combien les hommes ne sont pas toujours fans. Moi, avant,
pas comme toi, pas comme toi. Allez, dis-le, c'est ton moment. Est-ce que tu cuisines?
Non, oui, je cuisine.
Est-ce que tu sais changer une couche?
Alors là, j'ai... Alors,
les enfants sont grands,
je pense. Non, non, non. Alors, faut savoir que j'ai 3 enfants. Pendant toutes les périodes où les enfants, depuis qu'ils sont nés jusqu'à à peu près, tant qu'ils portaient des couches, qu'ils avaient besoin de biberon, c'est moi qui me levais le soir.
Bravo.
Et moi, j'encourage même les papas à faire ça parce que ça vous aide à développer un autre rapport avec vos enfants. Mm-hmm. Et donc, voilà. Donc,
je t'avais dit qu'on arriverait à le caser.
Oui.
Bravo.
Mais en tout cas j'essaie de m'occuper des enfants. Je sais faire à manger, parce que quand ma mère n'était pas là et qu'elle allait au travail, ben, il fallait manger, il fallait nourrir le petit frère. Voilà. Et donc, et au dire de mes enfants, je me débrouille pas mal. Donc,
Et donc, Yonggi Cho, lui,
voilà,
par contre,
j'arrive à ça. Il n'était pas très cuisine, mais bon, s'il m'avait appelé, j'aurais aidé. Mais bon. Donc, le bonhomme, il va apprendre à, par exemple, faire les magasins, les boutiques avec sa femme. Et quand il a commencé à faire ça, sa femme a commencé à s'épanouir. Mm-hmm. Et en fait, il a compris en fait, que ça, c'était une illustration de ce que le Saint-Esprit voulait faire avec lui, du type de relation que le Saint-Esprit voulait faire avec lui. Ce n'était pas juste quelqu'un qui est là. Et je pense qu'il y a des fois, nous devons réaliser que souvent, nous avons donné notre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit est là, mais il y a des fois, on mène une vie comme s'il n'était pas là. On fait comme si on ne le sollicite pas, il n'est pas là. Et du coup, le Saint-Esprit, la Bible dit, il peut s'attrister. Mm-hmm. Il peut s'attrister en nous. Parce que c'est comme, c'est Dieu en nous et qu'on néglige de rentrer en dialogue avec lui. Et il va comprendre cela et cela va changer sa vie. Et je pense que bien des chrétiens, souvent, ils se croient face à des situations seules alors que le Saint-Esprit, c'est l'avocat. Et la première notion de ce mot-là, avocat parakletos en grec, c'est celui qui se tient à côté de toi. C'est celui qui te tient à côté de toi dans l'idée de te rassurer. C'est celui qui se tient à côté de toi lorsque tu ne sais pas quoi dire. C'est celui qui va te donner les moyens de dire. C'est celui qui se tient avec toi. Et même l'image, c'est l'idée de quelqu'un qui se tient à côté de toi, mais pas n'importe qui, quelqu'un d'influent. Mm-hmm. Donc, le Saint-Esprit est là et nous avons besoin, je crois, le matin et, ou par rapport à l'occasion de certains moments difficiles, je pense qu'on a besoin de réaliser que le Saint-Esprit est là et il habite en moi, il habite en nous. Prier Jésus, c'est comprendre que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, il est là, notamment pour m'expliquer l'Écriture. Parce que Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi, il vous enseignera. Mm-hmm. Il est là pour ça. Et c'est très important de se sentir pourvu de cette idée-là, de cette réalité, pardon.
Ça, c'est aussi une question de foi. Comme on a dit, c'est d'avoir la foi qu'il est là. Ouais. Et quelquefois, on ne la manifeste pas toujours parce qu'on ne sait pas, en fait. Ouais. Mais c'est avoir la foi que le Saint-Esprit, il est présent. Dès que j'ai accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Oui. Et peut-être commencer à lui parler, parce que pour plusieurs personnes, elles ne savent pas forcément ces choses-là. Je me rappelle, quand j'ai voulu avoir la conscience que le Saint-Esprit est là, je mettais des petites alarmes où je me dis, OK, genre toutes les 30 minutes, c'est un exemple, je vais parler au Saint-Esprit. Et quand tu fais ça, ça semble bête au début, parce que c'est une alarme qui sonne. Ton travail, t'entends un bip, c'est l'heure de parler, c'est le temps de parler au Saint-Esprit. Mais à force de le faire, t'as pas besoin de faire 10 minutes, de juste une pensée et tout. Ben là, tu vois que tu commences à t'habituer.
Prendre conscience qu'il est là.
C'est ça, tu prends conscience, tu t'habitues. Et maintenant, il y a des jours, tu es là, tu dis, Saint-Esprit, je comprends pas cette affaire. Donc c'est comme si là, tu as maintenant la réelle conscience qu'il est vraiment à côté de toi et que tu peux exprimer différentes choses au Saint-Esprit. Donc moi, je vous encourage à faire ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Mm-hmm. En tout cas, c'est comme ça qu'au départ, moi, je l'avais vécu. C'est que c'était pas évident de juste dire Saint-Esprit comme ça quand tu es au travail, tu as des choses à faire. C'est pas évident de l'appeler. Mais il faut se mettre une discipline pour faire quelque chose. Et puis, à un moment, ça prend. Un moment, quand, à force d'avoir fait cette chose-là, ça devient un réflexe. Et dans différentes situations, ben là, on peut interpeller le Saint-Esprit. Et quand c'est ton cœur qui parle au Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Pas juste ta bouche. Il faut que ton cœur puisse parler au Saint-Esprit. Et ça, ça fait une vraie différence.
Il est là. Il est là. Et ça, pour moi, c'est d'autant plus qu'il est là. Notamment parce que quand on dit le Saint-Esprit, l'avocat, ça veut bien dire aussi qu'il est là particulièrement dans les moments des difficultés. Mm-hmm. Les moments où on a besoin d'être protégé. Et pour moi, ça me rappelle, par exemple, moi je suis d'origine congolaise et je le vois dans l'église, souvent des frères et sœurs d'origine africaine. Et souvent dans nos cultures, on aime bien prier. On aime bien prier. Et c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Mais sauf que, il y a des fois, nous avons une manière de prier chez certains, qui donnent l'impression que c'est nous qui allons nous protéger par nos prières. Mmh. La prière n'est pas un moyen de nous protéger. Celui qui nous protège, c'est Dieu. Mmh. C'est celui qui est là. Et David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que toi, tu es avec moi. La prière, qu'est-ce qu'elle produit ? La prière, en fait, elle a pour objectif de nous laisser pleinement prendre notre héritage en Jésus. Et lorsque tu prends ton positionnement en Jésus, ton héritage en Jésus, alors tu commences à réaliser que, ben oui, le Seigneur, il est là, il est celui qui te protège. Mm-hmm. Et c'est tout l'enseignement du psaume 91. Tiens, je t'invite à le lire. Le psaume 91, verset 1, souvent qui commence par « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ».
Oui, c'est ça. Donc, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Je continue ?
Oui.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne traîneras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Voilà.
Wow.
Ça, c'est pour celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Mm-hmm. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut rentre dans cette protection de Dieu. Mmh. Cette protection, elle est là. On a souvent besoin de prendre conscience de cette protection. Cette protection a une dimension passive, c'est-à-dire elle est là. D'ailleurs, c'est le psaume 121 qui dit « Celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Mmh. » Donc, il est là et Dieu nous garde, Dieu nous protège. Mais il y a aussi cette protection, une dimension aussi active où lorsque je viens dans la présence de Dieu, eh ben, le Saint-Esprit vient aussi, il me fait prendre conscience qu'il est avec moi. Et il me permet aussi d'être un peu plus offensive face à l'adversité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui demeure en nous. Et c'est très important, Aurélie, si tu parlais tout à l'heure de la foi, parce que y a des fois, on peut ne pas ressentir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune chrétien, j'aimais bien ressentir. Il y a une réunion, voilà, la présence de Dieu. Oh Seigneur, je sens ta présence. Alors souvent, il y a la louange, il y a la musique et tout ça. Ouais, je sens ta présence. Et il y a des moments, on ne ressent pas la présence. On se dit, mais Seigneur, tu n'es plus là. Et la Bible dit non. Ce que Dieu veut avant tout, ce n'est pas que tu le ressentes. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que tu le crois. Et quand nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que Dieu, il est avec nous. Mm-hmm. Et ça, c'est très important, l'idée de la foi. Lorsque la Bible confesse et dit que si vous demeurez en lui et lui il demeure en vous, nous devons le croire par la foi. Parce que notre environnement, rien ne donne cette impression. Seigneur, souvent l'adversité, l'ennemi crie fort. Mais toi, en fait, tu dois rester calme. Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à un cas de possession, des manifestations. Il y a des manifestations, souvent, que j'ai eu à rencontrer dans le ministère. Si tu ne sais pas que Jésus est à côté de toi, c'est toi qui fais le sprint, hein, qui cours dans le sens opposé. Mais parce que je savais que celui qui garde Israël, le Dieu Tout-Puissant, il est avec moi. Ouais. Et je ne laisse pas, et je ne crains pas. Et ça, c'est très important de comprendre que nous n'avons pas à créer notre protection. Notre protection est déjà acquise en Jésus. Mais lorsque tu demeures, eh ben, en fait, tu rentres simplement dans la consommation de ta protection en Jésus. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire dans demeure.
Ça, tu te rappelles hier, dans le message. Mm-hmm. Mais là, j'étais en train de je disais qu'il y a des personnes que c'est facile de dire ben, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu il est tout puissant et Dieu va le faire. Ouais. Quand c'est à ce niveau-là, c'est un acquis pour 99% des gens. Ouais. Mais quand c'est Dieu va le faire avec moi, parce qu'il est en moi et que le Saint-Esprit est là, là c'est là où ça devient plus difficile, c'est là où on a du mal. Mais c'est la conscience du Saint-Esprit qui nous permet justement de braver ces défis et ces difficultés-là. C'est de savoir que, mais en fait, si le Saint-Esprit est en moi, je peux tout, en fait.
Oui, c'est ce que dit
tout
Paul.
Tout est possible.
Je puis tout par celui qui me rend fort. Mm-hmm. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça, c'est extraordinaire. La plus grande illustration de ça dans la Bible, c'est David. Mm-hmm. David, le prophète Samuel est envoyé dans la maison d'Isaïe parce qu'il y a eu un premier roi que Dieu a rejeté, Saül. Il arrive et Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe, j'ai choisi mon roi là-bas. Mm-hmm. Et il arrive et on lui fait passer tous les frères de David. Et même le prophète Samuel se laisse un peu, quelque part, impressionné. Il voit Eliab, il dit, waouh, boum. Le gars, il a dû faire tac, tac, il dit waouh, ça c'est the man, quoi, the king, le gars qu'il nous faut. Et Dieu lui dit non, lui je l'ai rejeté. Bon, mais ok, il fait venir l'autre. Peut-être l'autre, il a dit ah ouais, ça c'est le gars, c'est un stratège, on m'a dit qu'il est bon dans les jeux de stratégie. Dieu lui dit non, je l'ai rejeté. Il y en a un autre qui arrive, ah non, lui c'est le spécialiste des armes, il connaît très bien quel est le meilleur arme. Dieu lui dit non, je l'ai rejeté. Et il s'arrête là. Et on ne lui fait plus venir personne. Et il ne trouve pas. Il dit, mais il y a encore quelqu'un ? Le père dit, non. Il dit, ah ! Le gars qu'on n'attendait pas. Il dit, ouais, vous imaginez, David ? On n'a même pas pensé à le faire venir. Tellement qu'on n'y pensait même pas. Insignifiant. On n'a même pas pensé à le faire venir. Et quand on voit plus tard le rapport qu'il a avec ses frères, c'est un peu, ouais, toi, on te connaît. T'es, voyez ? Souvent, il était un peu méprisé. C'était le gars insignifiant. Il dit, oui, il y en a, en plus, il garde les chèvres. Il dit, va le chercher. Et il nous a dit que le gars, il arrive, un petit gamin, là, certainement, il est légèrement autour de l'adolescence. Et il a dit, il avait plutôt un beau visage, tout ça. Et Dieu dit, bah, c'est lui. C'est le gars qu'on n'attendait pas. Mm-hmm. Le type sur lequel on ne misait pas. Celui qui n'a pas fait les grandes écoles. Et ça, c'est très important aussi. Peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais moi, je n'ai pas fait les grandes études. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Cela n'a rien à voir. Si tu mets ta destinée entre les mains de Dieu, tu peux faire des choses bien plus extraordinaires que ceux qui ont fait souvent ces études, ceux qu'on attendait. L'histoire, par exemple, enseigne que le fondateur du grand site de commerce Alibaba, c'est un gars, il avait voulu aller à Harvard. Harvard l'a refusé. Et pourtant, il est devenu l'un des plus grands milliardaires au monde. Donc, lorsqu'on est en Jésus, c'est Jésus qui transforme notre destinée. Ce n'est pas les grandes écoles, ce n'est pas les grands réseaux. Celui qui transforme notre destinée, c'est Jésus. Et donc, ce David-là, ce David, celui qu'on n'attendait pas, finalement, c'est lui que Dieu avait choisi. Et David, lorsque Dieu va être avec lui, les gens pourront dire, Saül en a vaincu 1000, David 10 000. Quand Dieu est avec lui, il voit Goliath. Il lui dit, bon, écoute, gars, toi, tu viens avec tes armes. Et Goliath, c'était pas rien, c'est 3 mètres. Il est dit, la pointe de sa lance était à peu près 7 kilos. La cuirasse qu'il avait sur lui, là, c'est 60 kilos. C'est comme si Goliath, il se battait avec un gars de 60 kilos. voilà.
Sur lui.
Moi, un gars comme ça, je le croise dans la rue, il me dit, Sosten, tu me dois de l'argent. Même si je ne lui dois pas, je lui donne. Vous voyez, je lui donne. Donc, le gars, Goliath, il est impressionnant. Il est tellement impressionnant que même Saül, pourtant Saül, il est dit, quand il est établi roi, il est dit de lui qu'il dépassait tous les autres d'une tête. Donc, il était grand, Saül. Et d'ailleurs, son armée aussi, son armure était quand même assez lourde. David essaie de le revêtir, il n'y arrive pas. Eh bien, David, quand il voit ce gars-là, il dépose l'armure de Saül. Il va avec, non pas les moyens des autres, mais avec les moyens de Dieu, les moyens que Dieu a mis en lui. Ça aussi, il y a un véritable enseignement là-dedans à tirer. Il dit, ouais, toi, tu viens avec le javelot, tu te confies dans ça. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Mm-hmm. Et parce que Dieu étant avec lui, David, il va terrasser Goliath. J'imagine que ce jour-là, vous imaginez le spectacle, il y avait d'un côté Israël, il y avait d'un côté les Philistins. Les Philistins, ils voient David. Du côté des Philistins, ils rigolaient. Ils étaient là avec leur pop-corn. Ouais, allez, vas-y, on va se marrer. Ils sont venus, peut-être, ils ont mis des sièges. Ouais, la série télévisée avec pop-corn, quoi. Et les Israélites, j'imagine même les frères, là, à côté, disaient, mais on lui avait dit qu'il fallait pas venir. Pourquoi il est venu? En plus, il va se faire ratatiner. Comment on va le dire à papa, etc., etc., qu'on n'a pas pu empêcher. On a essayé, mais lui, il est allé voir le roi directement. Il nous a court-circuités. Comment, etc. Et David va aller vers Goliath. Goliath va aller vers David. Goliath va venir avec l'arrogance. David va prendre juste une pierre. Il va viser Goliath, là, il va tomber. À ce moment-là, la donne va changer. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Mm-hmm. Dieu est en nous. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et ça, c'est un des grands éléments de ma vie chrétienne. En tant que pasteur, je refuse souvent de tomber dans la fausse humilité, vous savez, dans cette fausse humilité qui nous empêche de rentrer dans les choses de Dieu. Mais je préfère confesser le nom de Jésus. Mm-hmm. Parce que derrière la fausse humilité se cache souvent aussi l'orgueil. Mm-hmm. Mais je préfère confesser le nom de Jésus. J'ai appris à dire avec le Seigneur, Seigneur, je suis petit, je suis peut-être rien, je n'ai pas ceci, cela, mais toi, tu es avec moi. Mm-hmm. Et si toi, tu es avec moi, Seigneur, je peux faire de grandes choses. Mm-hmm. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mm-hmm.
Amen. Et, bah, merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est un message dont on a toujours besoin et qui nous rappelle que nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas appelés à nous soumettre à Goliath comme toute cette armée a fait, à battre en retraite et se dire non, nous avons un nom et un nom qui est au-dessus de tous les noms, un nom qui nous rend plus que vainqueurs et qui fait que oui, je peux aller contre n'importe quel ennemi et pas avec ma propre force, pas avec même mes grands de prière, mais avec le nom de Jésus. Et le fait de demeurer en lui, c'est aussi apprendre à le connaître. Et plus on le contemple, plus on regarde sa force, plus on regarde ses muscles, on se dit, mais c'est sûr qu'il va faire du bon travail pour moi. C'est sûr qu'avec lui, j'ai la victoire de façon assurée. Et une des choses que vous avez, que tu as pu partager aussi, ce stade, c'est que bah, par nos prières, on ne construit pas notre protection, protection est déjà en lui. Oui, alors qu'on demeure en lui, bah, nos yeux s'ouvrent sur qui il est, sur ce qu'il fait, sur la protection, l'abri que nous avons déjà et sur notre position à nous de rester dans cet endroit de protection et de ne pas sortir justement et de ne pas aller commencer à nous battre avec nos propres forces parce que c'est là où on va vivre des échecs. Donc apprenons à demeurer en lui pour savoir qui il est, pour voir sa force et pour pouvoir être prêt aussi à affronter les ennemis qui se dresse devant nous en se disant non pas avec ma force mais avec ta force Seigneur et je crois que cet ennemi sera vaincu. Amen. Et que je ne le reverrai plus jamais. Amen. Et demain eh bien on va se retrouver et puis on va voir comment aussi on peut porter du fruit parce que on a besoin de porter du fruit et c'est la frustration de beaucoup mais j'ai l'impression que je ne porte pas de fruit. Comment faire? Et encore une fois on peut se battre dans tous les sens mais demain avec Sosten et Aurélie nous verrons comment nous pouvons avoir une vie qui porte du fruit. Alors, à demain dans Parole de Femme.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme sur emcitv.com.